Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écoutez cet audio. Cet audio est le premier audio destiné à vous transmettre quelques informations synthétiques sur le management. Cet audio est destiné à des BTS, support à l'action managériale, assistant de manager, assistant de gestion, négociation, relations clients et management des unités commerciales. Premièrement, je vous invite à écouter cet audio devant votre ordinateur et de manière à vous référer à un certain nombre de sites que je pourrais vous recommander au fil de cet audio. Tout d'abord, une entreprise fonctionne avec un objet, une raison d'être, des finalités économiques, sociétales, des ressources humaines, de l'investissement en biens, en ingénierie, en innovation. Les entreprises sont réparties en secteurs, secteurs primaires, secteurs secondaires ou secteurs tertiaires. Elles peuvent aussi être classées selon leur taille, selon qu'elles soient une entreprise artisanale, TPME, très petites entreprises, TPE, très petites entreprises, ou PME ou PMI selon leur taille. On peut aussi avoir d'autres classifications selon la taille des salariés, une micro-entreprise à environ 9 salariés, une petite moins de 50, une moyenne 250 et une grande plus de 250 salariés. Les entreprises sont aussi classées selon leur statut juridique, selon qu'elles soient en nom personnel, une entreprise individuelle, ou sous une forme sociale, qu'ils soient plusieurs ou un seul associé, c'est-à-dire des SARL, des SA, des SAS, des EURL, ou aussi des entreprises individuelles. Sachant que le choix des formes juridiques des entreprises ont des incidences sociales, juridiques, comptables, fiscales. Par exemple, la gérance d'une société peut être salariée ou non, minoritaire ou pas, et cela peut être différent selon les cotisations afférentes à cette rémunération. Les entreprises sont accompagnées par des chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce ou des centres de formalité des entreprises qu'on trouve à la chambre de commerce et des industries ou à la chambre de métier, mais elles sont aussi accompagnées par des structures, des associations telles que l'ADEME ou l'AMPI. Une entreprise se représente aussi à l'interne avec ses liens hiérarchiques ou fonctionnels. La représentation la plus courante, c'est l'organigramme, qui est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d'une entreprise. Cet organigramme donne une vue d'ensemble de la répartition des postes et des fonctions au sein d'une entreprise. Cette cartographie simplifiée permet de visualiser les différentes relations de commandement ainsi que les rapports de subordination, d'où une vision simple et claire des structures les plus complexes. La division du travail est nécessaire dès lors que le travail a besoin de plusieurs personnes. On peut parler de division verticale en parlant de la hauteur de l'organigramme ou de division horizontale selon la largeur de l'organigramme qui peut aussi se scinder en produits, en zones ou par fonction. Les structures peuvent avoir un mode de décision centralisé ou un mode de décision décentralisé. Le mode de décision centralisé, c'est le dirigeant qui décide, où tous les pouvoirs sont centralisés dans les mains d'une seule personne. La structure décentralisée, le pouvoir de décision est réparti selon une hiérarchie ou selon une organisation. La supervision peut être directe, où il peut y avoir des standardisations des différents procédés. La division d'une entreprise peut être appelée divisionnelle quand l'entreprise est divisée par un type de marché, chaque division étant autonome avec des stratégies de diversification différentes. Il y a un mixte entre une structure divisionnelle et une structure fonctionnelle, et à ce moment-là, on l'appelle une structure matricielle qui correspond à un découpage de l'entreprise selon deux critères, le critère technique et le critère administratif. Ce type de découpage est adopté surtout par des entreprises qui travaillent sur plusieurs projets et en employant les mêmes moyens. Chaque projet nécessite une certaine combinaison d'éléments techniques et administratifs. S'agissant du management, le management peut être appelé management opérationnel ou encore on l'appelle le plus couramment management de proximité ou management de terrain. C'est un management qui s'occupe essentiellement de la gestion quotidienne des activités de l'entreprise. Il désigne les opérations de mobilisation, de contrôle, de stimulation et d'encadrement des équipes. Dans ce type de management, les décisions sont prises à court ou à moyen terme. D'un autre côté, le management fonctionnel concerne le fonctionnement et la gestion organisationnelle de l'entreprise dans sa globalité. Ici, les décisions sont prises en général sur le long terme. Contrairement aux idées reçues, le management fonctionnel et opérationnel sont souvent complémentaires. Dans le cadre du management, il peut y avoir plusieurs styles de management qu'on peut appeler un management participatif, dans ce cas la communication est ascendante et descendante, et on introduit l'équipe aux décisions et aux recherches d'un consensus. Le management de style autoritaire est guidé spécifiquement par des résultats et l'atteinte des objectifs, et la communication est essentiellement descendante du manager vers les personnes subordonnées. Le style de management paternaliste, c'est la recherche de la fidélité de son équipe qui fonctionne par la récompense et qui se montre parfois autoritaire ou paternel si besoin. Le style de management délégatif, le manager se trouve à l'égal de son équipe et le management donne du sens aux différents objectifs. Tout cela dépend bien évidemment de l'équipe, mais aussi de la personnalité du manager. Depuis quelque temps, on assiste à un nouveau mode de management qu'on appelle le Lean Management, LEAN Management. C'est un management facile, pragmatique, avec de la transparence, qui fonctionne à partir de réunions flash, de 5, 7, 8 minutes, debout. On n'est pas assis autour d'une table, il n'y a pas de réunionite, il n'y a pas de prise de notes, on est debout. Le manager affiche les résultats, mais aussi en mesure de déléguer à tour de rôle à différents salariés des décisions ou des activités à faire selon les compétences de chacun. Donc, le lean management. Donc, les styles autoritaire, paternaliste, consultatif et participatif ont été énoncés par un économiste qui s'appelle Likert, Likert. Voilà pour les styles de management. Alors, l'entreprise fonctionne avec une logique entrepreneuriale et une logique managériale. Dans quelle que soit la logique dans laquelle une entreprise fonctionne, elle peut être représentée, et je vous invite à représenter votre entreprise ou votre positionnement dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et la chaîne de valeur a été éditée par l'auteur qui s'appelle Porter, Porter. Donc sur la barre de recherche de Google, vous pouvez faire Porter, chaîne de valeur, et vous allez trouver un schéma qui différencie les activités de soutien au fonctionnement de l'entreprise, comme l'infrastructure, les ressources humaines, la recherche de développement, les achats, qui sont des activités de soutien, et des activités de base, des activités de logistique, d'approvisionnement, de fabrication, de commercialisation, de marketing, de service, tout cela devant arriver à un objectif d'obtenir une marge pour assumer les charges fixes et variables et attirer bien évidemment un bénéfice ou un profit. Pour y arriver, un chef d'entreprise doit prendre des décisions. Un auteur qui s'appelle Igor Ansoff, A-N-S-O-2-F, a donné une cartographie des décisions en trois points. Des décisions stratégiques qui mobilisent beaucoup de ressources, on est sur du long terme, et des décisions tactiques où on affecte les ressources à moyen terme, ou des décisions opérationnelles, c'est-à-dire du court terme, qui sont pris par des managers qui s'occupent du fonctionnement du quotidien. Pour qu'une prise de décision soit faite, un autre auteur qui s'appelle Herbert Simon, S-I-M-O-N, Simon, il a établi qu'il y a un modèle IMC, intelligence, modélisation, choix, concernant la prise de décision. L'intelligence, c'est l'identification du problème, la collecte des renseignements, puis vient la modélisation de l'information, modélisation des différentes options, puis le choix, la sélection des options et l'évaluation aussi des conséquences. D'autres facteurs influent sur les décisions de l'entreprise, comme la taille, la structure, la nature de la décision, l'histoire de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Par exemple, lors de la crise de 2009, l'environnement n'était pas favorable à une prise de décision risquée. Donc, le management stratégique, donc c'est fixe les orientations long terme, tactique qui porte sur l'affectation des ressources et opérationnel sur le fonctionnement quotidien et le court terme de l'entreprise. L'entrepreneur est la cheville ouvrière du capitalisme optimiste. L'entrepreneur aime prendre des risques, il a cette capacité d'analyse et de trouver des pistes, et l'une des pistes qui, au service de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. L'innovation peut se poser concernant la création de valeur de produits, des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouvelles matières premières ou des processus nouveaux. Ça au niveau de l'innovation. Ensuite, l'entrepreneur peut aussi développer une nouvelle idée, et pour cela, il peut faire une étude de marché qualitative, qualitative ou une étude de la concurrence pour évaluer les besoins et les ressources, et tout cela, il peut le mobiliser dans un document qu'on appelle business plan ou plan d'affaires. Donc, concernant le manager, il organise, pilote, contrôle, veille à la performance et à la polyvalence de ses équipes. Le manager fixe les objectifs, organise et mesure les résultats en maximisant les ressources qui lui sont confiées. Il s'occupe du court terme, de la recherche du profit, de la gestion des compétences afin de booster les performances de l'entreprise. Il est capable de prendre des initiatives, d'être gestionnaire et innovant et fait place à l'évolution de la concurrence. Et en plus, il a la charge de la motivation des salariés. La motivation des salariés, elle est conditionnée à plusieurs éléments. Un bon salaire, des conditions de travail convenables, l'intérêt pour le travail confié, la reconnaissance de la direction, les évolutions ou l'évolution de carrière et les avantages. Pour cela, je vous invite à consulter la théorie de Vroom, W-R-2-O-M, qui parle de la valence, c'est-à-dire que de la valeur que l'on attribue à son travail. Il parle aussi d'instrumentalité, c'est-à-dire ce que l'on pense obtenir par son travail. Il parle d'expectation. Est-ce que je pense que je peux produire la mission qu'on vient de me confier? Et Vroom dit qu'il faut 3 conditions pour être motivé. La première, c'est le sentiment d'être capable de réaliser ce qu'on me demande. Deuxièmement, la valeur, c'est-à-dire l'importance du gain par rapport à l'action. Et est-ce que j'ai les moyens? Est-ce qu'il y a une clarté dans la relation de cause à effet? Un autre auteur plus connu qui est Maslow, lui, il dit que nous sommes motivés en fonction du niveau de satisfaction de nos besoins. Dans les types de décisions, pour terminer avec la prise de décision, il existe plusieurs types. On a vu les décisions tactiques, stratégiques et opérationnelles. On peut aussi parler de décisions programmées, qui sont des décisions routinières, répétitives. Et l'organisation se développe généralement des moyens spécifiques pour les traiter. Des décisions non programmées, qui sont typiquement des décisions monostables, qui sont généralement moins structurées que les décisions programmées. Et ça amène aussi à identifier le processus de décision, qui est d'identifier le problème, d'inscrire des alternatives possibles, de sélectionner les plus bénéfiques des alternatives et de mettre en œuvre la décision et aussi d'évaluer la décision qui sont prises. Les décisions qui sont prises. Les décisions peuvent se trouver conditionnées à un certain nombre de contraintes qui viennent altérer la prise de décision. Par exemple, le budget, les limites financières de la structure, le temps nécessaire à l'information, le temps nécessaire à la prise de décision, l'information, le coût de la recherche peut être parfois disproportionné par rapport à l'enjeu, la personnalité du décideur qui influence ou non la rationalité de la décision, les connaissances. Les solutions alternatives sont d'autant plus précises et pertinentes que l'expérience du décideur est grande et l'environnement qui est une contrainte majeure. Et je reviens à cet exemple des années 2009, de la crise de 2009 et aussi de la crise sanitaire du Covid qui fait que l'environnement aujourd'hui est une contrainte majeure dans la prise de décision, dans l'innovation, dans les choix qu'un décideur, qu'un manager peut être amené à prendre. Voilà, donc j'en ai terminé avec le premier audio concernant le management. Donc vous avez les types de management, les styles de management, la notion de prise de décision avec les décisions tactiques, opérationnelles, stratégiques. Et je prépare le deuxième qui vous parviendra d'ici 2 ou 3 jours. Merci.